trouve dans 1 Corinthiens 14, 1 à 19. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si des objets inanimés qui rendent un son comme la flûte ou la harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la harpe? Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole significative, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que soient dans le monde les diverses sortes de langages, aucun n'est articulé. Si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle, et celui qui le parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à les avoir en abondance. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Prions pour pouvoir recevoir la parole. Dieu le Père, que le Saint-Esprit nous donne la parole pour nous influencer et nous émouvoir tous. Je prie au nom de Jésus. Les mystères de la prière, lisons ensemble le résumé de la parole de Dieu. Dieu est esprit. Même s'il lui existe de par lui-même, il régit sur la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction de toute sa création. Il octroya néanmoins à l'humanité une grâce spéciale pour lui faire transcender ses limites. Premièrement par la volonté, deuxièmement par la prière et troisièmement par la prière de l'esprit. Par conséquent, si l'on n'actionne pas sa volonté, on ne peut progresser dû à la paresse. Si on ne prie pas, on ne peut dépasser les limites de la chair. Et si on ne prie pas en esprit, on ne peut aller au-delà de sa connaissance. Puisque la prière de l'esprit prononce les mystères qui ne sont connus que de lui, l'esprit de l'homme seul connaît les choses de l'homme. Et seul le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, connaît les choses de Dieu. Jésus aussi pria par le Saint-Esprit quand il était dans le monde. Les agitations de la chair n'étant pas spirituelles, seule la prière permet de les surmonter. Les limites de la volonté étant la connaissance, seule la prière de l'esprit peut les dépasser. La prière de l'esprit, c'est le parler en langue. Celui qui parle en langue profère les mystères de son esprit que personne ne peut comprendre. Il nous faut prier. Il nous faut prier avec l'intelligence et également par l'esprit. Dieu est esprit. Esprit signifie celui que nous pouvons voir de nos yeux, mais qui est un être transcendantal, lui existe par lui-même. Mais pour l'humanité, il a donné une grâce spéciale pour que les hommes puissent dépasser leurs limites. Ainsi, il a donné la foi. Et la pratique de cette foi s'appelle justement la prière. Nous avons donc la prière. Et depuis le début de l'année, nous apprenons sur elle. Mais à quoi ça sert d'entendre si on ne met pas en pratique ce que nous avons appris? Le plaisir d'écouter à la parole de Dieu, le plaisir qu'on a à écouter, à quoi servira à votre âme? Jacques a dit que même les démons ont cette attitude. Il faut écouter la parole et la mettre en pratique. Disons que Béret, c'est la pratique. Écouter les sermons, connaître la Bible. Mais à quoi ça sert si on ne met pas en pratique toute cette connaissance? Donc, si nous avons été enseignés sur la prière, il faut la mettre en pratique. Un manager de football a dit que qu'on pouvait réussir si on faisait 1% de progrès tous les jours. Rien qu'à écouter le titre, il suffit de comprendre le reste du sermon et nous pouvons mettre en pratique le peu que nous avons compris. Ainsi, nous prions. On distingue la prière faite avec l'intelligence et celle faite par l'esprit. La prière, c'est la puissance spéciale qui permet de dépasser les limites humaines. Quand nous ne croyons pas en Jésus, nous ne prions pas. Maintenant, nous le faisons. Nous connaissons tous nos propres limites. C'est pourquoi il y a une rivière au-devant de nous que nous pouvons traverser, où nous trouvons devant un précipice. Quand nous sommes au bout de nos limites, la puissance qui permet de les dépasser, c'est la prière. Donc, on prie quand on demande l'aide de Dieu, parce qu'on ne peut pas faire de par soi-même. La prière en soi est spirituelle. C'est l'activité destinée à Dieu. C'est ce qui est offert à Dieu. On était un crayon. Dieu n'existait pas pour nous. C'est pourquoi nous ne pouvions rien faire vis-à-vis de lui. Mais maintenant, nous pouvons prier à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: Dieu peut faire ce que la chair humaine ne peut pas. Donc nous dépendons de Dieu et avec son aide, nous pouvons faire ce que nous-mêmes pouvons le faire. Nous distinguons aussi les signes et les prodiges dans la Bible. Les deux sont réponses à la prière. Les signes désignent les réponses générales. Par exemple, ce dont j'ai besoin, mes demandes, tout ce qui appartient au bon sens humain. Par exemple, prier pour qu'un malade soit guéri ou prier pour éviter un danger. Et quand on prie de cette façon, on voit les signes qui accompagnent les prières comme les ombres. Alors que les prodiges, on distingue aussi ce qui est public de ce qui est privé. Eh bien, les prodiges font partie de ce qui est public, c'est-à-dire que cela se rapporte aux grandes œuvres du royaume de Dieu, aux œuvres de Dieu. Donc même si ce n'est pas moi, Dieu fait ses œuvres à travers quelqu'un d'autre. Et ce sont les prodiges. Par exemple, les Israélites avaient été guéris de la lèpre, ce sont des signes. Mais le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu leur ouvrirait la mer Rouge et les guiderait avec des colonnes de nuée et de feu. Ce sont des prodiges. Quand je prie pour moi-même ou pour mes saints, mes fidèles, et les réponses me viennent comme des signes. Mais comme vous le voyez, mon pastorat est composé de prodiges. Cela ne se fait pas par la sagesse humaine. Pendant 35 ans, vous avez vu ce que j'ai accompli dans mon pastorat. Ce ne sont pas des signes, mais ce sont des prodiges que quelqu'un d'autre que moi aurait dû accomplir. Donc nous avons besoin des signes et des prodiges. Mais quand nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, Dieu travaille et accomplit les prodiges. Et c'est ce que nous devons croire en réalité. Nous devons croire à ces réponses. Et la prière de la chair ne peut dépasser les limites de la connaissance. Nous ne pouvons pas prier pour ce dont nous ne savons pas. Nous ne pouvons prier que pour ce dont nous savons. On fait les veillées de nos jours qui sont quelque peu différentes de celles que je faisais pendant les années 50-60. À l'époque, on commençait à prier à 9h ou à 10h du soir à l'église. Et sans interruption, on priait à genoux pendant 8 à 9 heures. Même si on était plusieurs, certains pouvaient se mettre à chanter des cantiques tout seuls et puis continuer à prier. De nos jours, pendant les veillées, on ne prie pas toute la nuit, non. On essaye de ne pas dormir et de veiller. Et pour ne pas s'endormir, on ne fait que chanter des cantiques. Et en fait, c'est presque se maltraiter physiquement, ne pas dormir. Et chanter des cantiques pour essayer de rester éveillé. Ce ne sont que des veillées. Et je ne suis pas tellement satisfait des veillées d'aujourd'hui. Quand ma femme et moi allions faire la veillée, nous prions sans interruption, 6 heures, 7 heures de suite. Il n'y avait que la prière, et c'était des prières profondes. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus cette puissance. Ils peuvent rester éveillés toute la nuit, mais ils ne peuvent prier de cette façon. Comment prier pendant 8 à 9 heures de suite? Même j'ai beaucoup péché, je ne peux pas tenir 8 à 9 heures pour me repentir. D'après mon expérience, 2 heures sont amplement suffisantes pour dire tout ce qu'on a à dire à Dieu. C'est comme si on... Donc, pour prier 8 heures, il faut répéter 4 fois de suite ce qu'on a prié pendant 2 heures. Comment continuer? Ainsi, la prière faite avec l'intelligence, on l'offre en connaissance de cause. On connaît les problèmes qui doivent être absolument résolus par Dieu et nous prions donc avec l'intelligence. Mais je ne vois pas mon esprit, je ne peux pas le toucher. Alors, comment connaître sa situation, la situation de mon esprit? Seul mon esprit connaît sa situation. Il est dit aussi dans 1 Corinthiens 2, 11 que seul le Saint-Esprit de Dieu connaît la situation de Dieu. C'est la même chose pour l'esprit de l'homme. Seul l'esprit de l'homme connaît sa situation. Donc les gens dehors de l'Église ne peuvent absolument pas connaître la situation de leurs esprits. Nous parlons de la vie spirituelle, la vie qui aide l'esprit, mais nous ne pouvons pas connaître les pensées, la situation de nos esprits. C'est pourquoi nous a donné la grâce pour que nos esprits puissent parler directement à Dieu. Il nous a donné cette puissance, cette occasion. Dans l'Ancien Testament, les membres communiquaient avec le Dieu Tout-Puissant. Ils menaient une vie spirituelle à leur façon. Adam, devenant un être vivant, pouvait communiquer avec Dieu, mais à cause du péché, sa relation a été interrompue. Et c'est ça le péché. C'est être coupé de Dieu. C'est ça le péché. L'impossibilité de mener la vie spirituelle, c'est ça le péché. Mais à travers Moïse, ils ont entendu la parole de Dieu, et comme la parole est esprit, et c'est la chair qui obéissait, mais l'esprit ne pouvait absolument pas voir directement Dieu. Mais le Seigneur Jésus nous a donné la rémission des péchés, il a envoyé le Saint-Esprit, et lors de sa venue, Acte 2, 4, nous avons commencé à parler en langue selon que l'Esprit nous l'avait permis. Donc, c'est seulement par la venue du Saint-Esprit que nos esprits ont pu commencer à parler. Dans l'Église de l'Ancien Testament, quels que soient les problèmes de l'Esprit, on pouvait deviner et dire « Seigneur, aide mon âme », mais l'Esprit en soi ne pouvait rien dire. Mais après la venue du Saint-Esprit, donc nos esprits ont pu prier à Dieu. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit, quel est le premier cadeau que nous recevons? C'est qu'il fait parler nos esprits. Le Saint-Esprit permet mon esprit de prier à Dieu. Combien c'est merveilleux et combien nous devions être reconnaissants. Jésus a donné l'autorité de chasser les démons et de guérir dès qu'il a appelé ses disciples. Mais le parler en langue n'a été possible que par la plénitude du Saint-Esprit. C'est avec la plénitude du Saint-Esprit qu'on commence à parler en langue. Donc, la prière spirituelle ne se fait que grâce au Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que mon esprit peut proférer ses secrets à Dieu. Ici, on parle de prophétiser. Et beaucoup croient que prophétiser, c'est beaucoup c'est supérieur au parler en langue. Qu'est-ce qui vient en premier? Les yeux ou la bouche ou le nez? Tous sont nécessaires. Que ce soit la prophétie ou le parler en langue, ils sont tous à égalité. Mais beaucoup de chrétiens se méprennent sur les prophéties. Avant l'Église, certains croient que prophétiser, c'est prédire l'avenir. Certains croient que beaucoup sont devenus des devins, des diseurs de bonne aventure après avoir reçu le Saint-Esprit. Que dit la Bible? Il est dit que les devins et les menteurs iront dans les feux de l'enfer. Pourquoi recevoir la grâce et tout faire pour être maudit et aller en enfer? Pourquoi prétendre être spirituel et aller en enfer? Prophétiser, ce n'est pas proférer des divinations. Les hommes de l'Ancien Testament avaient été choisis comme des prophètes et Dieu les avait fait parler, mais ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux 1:1, ce que les prophètes avaient dit, proféré de plusieurs manières. C'est pourquoi ils avaient voulu entendre, mais n'avaient pu entendre. Ils avaient voulu voir, mais n'avaient pu voir. Mais Dieu a parlé dans les derniers jours par son Fils. En d'autres mots, par exemple, pour faire un costume, quelqu'un fabrique des boutons seulement, mais les boutons ne constituent pas le costume. Certains fabriquent le fil. Le fil, ce n'est pas le costume. Mais il faut le fil pour voir tisser le vêtement. Il faut aussi des ciseaux pour tailler le tissu. Certains les fabriquent. Certains aussi fabriquent l'aiguille, d'autres le dé, d'autres la machine à coudre. Tous ces éléments sont différents. On ne peut pas porter des ciseaux ou la machine à coudre. Ce sont des éléments mobilisés pour fabriquer le costume. Eh bien, la parole des prophètes contenait ce que Dieu avait voulu dire à leur insu. Quand nous allons dans une ville, nous prenons le train, par exemple, et beaucoup de passagers sont dans ce train, et je fais partie d'eux. Et en prenant le train, je parviens à ma destination. J'utilise le train. Eh bien, parmi les nombreux événements de la Bible, Dieu a utilisé une partie infime. Nous parlons des descendants de David. Et pourquoi c'est important? C'est que David est important, parce que c'est le roi, un roi. Et le roi des rois ne peut sortir que de la lignée royale. Donc c'est celui qui sort des racines de David. Et la lignée de David a été interrompue. Donc la dynastie avait été interrompue. Mais Joseph, le fiancé de Marie, aurait pu être roi. Et c'est pour la naissance du Fils de l'homme qui sort de Marie et de son fiancé Joseph. C'est pour ce but-là qu'on mentionne dans Roi, la généalogie des rois. Peut-il y avoir quelques prophéties dans ce livre? Mais justement, moi. C'est pour faire sortir le Christ de Marie. Et bien sûr, donc peut-on dire que, qu'il y ait des prophéties dans le livre des rois? Ou un autre exemple, dans une mine d'or, on en prend un rocher qui pèse une tonne et on pulvérise la terre et pour pouvoir récolter la poudre d'or, comme l'or pèse. Toutes les poussières s'envolent et les particules les plus lourdes descendent au fond et avec le mercure, on peut rassembler les particules d'or et il ne reste que c'est l'or. À partir d'une tonne de terre, on peut soutirer de la poussière d'or de la taille d'une noix. Donc c'est le même processus. La Bible, c'est ce rocher d'une tonne à partir duquel on extrait la poudre d'or. Donc Jésus-Christ est venu en fin de compte. Et celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et on voit la réponse. On comprend de quoi parlait toute la Bible. Donc on voit que tout ce que les prophètes avaient parlé partiellement prend un sens quand on voit le Fils. Et qu'est-ce qui est transmis à travers le Fils, c'est l'espoir, et c'est ce qu'on appelle la prophétie. On nous demande de prophétiser, ça ne veut pas dire qu'on nous demande de proférer des divinations et de prédire l'avenir. On nous demande d'annoncer l'espoir. En fait, un prophète, ce n'est pas un devin, un diseur de bonne aventure, c'est celui qui annonce, qui transmet l'espoir. Répétons, un prophète, c'est un guide, celui qui transmet l'espoir. Qu'est-ce qu'un prédicateur? Nous mourrons de toute façon, mais où ira l'âme? L'âme ira au paradis, ensuite dans la vie éternelle et dans le royaume de Dieu. Et puis nous attendons l'avènement du Seigneur. Et le prophète, c'est celui donc qui donne l'espoir. Donc, tu as entendu la parole de Dieu et essaye de l'enseigner aux autres pour que cela l'observe. Donc, n'importe qui ne peut pas le faire. Il faut voir la sagesse de la parole et cette puissance. Pourquoi? Parce que le parler en langue n'est pas destiné aux hommes. Si je commence à parler en langue, vous allez vous dire, bien sûr, ceux qui somnolent vont se réveiller. Et si je continue à parler en langue, il va être éberlué. Et puis avec le temps qui passe, notre pasteur se fait vieux maintenant. Il raconte n'importe quoi. Donc, quand on parle en langue, on ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, quand on veut parler aux hommes, il faut prophétiser. Il faut faire il faut dire des paroles qui donnent l'espoir. Il faut avoir cette inspiration. Une femme voit dans visite une maison, diaconesse, vous savez, je ne sais pas si je peux vous dire cela, et elle fait impatienter son interlocutrice et éveille la curiosité. Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Non, 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 je crois qu'il vaut mieux que je ne le dise. Je ne le dise pas, je me taise. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous savez, mais qu'est-ce que vous avez? Mais je ne sais pas, peut-être que vous allez tomber en tentation. Mais non, ne vous inquiétez pas. Je crois que votre mari va mourir. Bien sûr, c'est très déplaisant. Et ce n'est pas spirituel, ce ne sont pas des paroles qui donnent l'espoir. Ou alors, je crois que votre mari sort avec une autre femme. Vraiment, c'est détruire complètement la maisonnée. Ce n'est pas prophétiser, c'est vraiment être le diable. Non, c'est pas ça prophétiser. Prophétiser, c'est donner l'espoir. Quand on parle en langue, on ne fait qu'à Dieu. Et quand on est devant la congrégation, c'est-à-dire l'église, l'ecclésia, il faut parler en langue. Ça ne sert à rien de prêcher en langue. On va vous traiter de fou. La Bible le dit aussi, on va vous traiter de fou si vous parlez en langue aux hommes. Quand vous vous adressez à la congrégation, essayez de prophétiser, c'est-à-dire essayez de parler de l'espoir. Qui est Jésus, c'est l'espoir. Donc, quand on parle en langue, il faut parler avec Dieu seulement. Il ne faut pas parler aux hommes parce que c'est incompréhensible. Par exemple, quand nous veillons, nous prions avec zèle pendant 2 heures, et puis le reste, il faut parler en langue. C'est mon esprit qui profère les secrets connus de lui seul. Dieu le Père, donne-moi la puissance, aide-moi. Mais quand on parle en langue, on commence à se mettre à pleurer. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, moi je ne sais pas, mais mon esprit a des raisons que lui seul connaît. Et ce débat pour se faire connaître de Dieu. Il est aussi dit que dans Romains 8, qu'il prie selon la volonté de Dieu pour les saints. Le Saint-Esprit sait très bien la situation de Dieu et il prie pour nous en connaissance de cause. Ainsi, mon esprit connaît sa situation et prie en langue. Et prie, et c'est ça le parler en langue. Il faut faire en sorte que l'esprit puisse parler directement. Dieu nous a donné cette grâce, mais les chrétiens mettent de côté cette prière spirituelle. Même si vous faites des prières éloquentes, ce ne sont que des prières qui sont limitées à votre connaissance. Mais comment régler les problèmes de l'esprit qui suffoquent d'impuissance? Dieu nous a donné cette puissance pour que l'esprit aussi prie, et parce que c'est nécessaire. C'est pourquoi à l'époque de la loi, les Israélites ont écouté la parole de Dieu et obéi, mais ils ne pouvaient amener ce genre de vie spirituelle. C'est pourquoi ils ne pouvaient appeler Dieu Père. La prière, c'est l'activité de ceux qui peuvent appeler Dieu Père. Nous avons reçu cette grâce spéciale qui nous permet de faire des prières spirituelles, mais les chrétiens n'obéissent pas. La prière, le Saint-Esprit nous fait parler, nous fait parler en esprit, mais la personne concernée ne prie pas. Certains disent, pasteur, ça sort pas, il faut parler en langue. Hein? Les paroles ne sortent pas automatiquement. On contrôle son langage. Les mots ne sortent pas automatiquement. Les mots sortent quand vous utilisez votre volonté pour parler. C'est la même chose quand vous chantez. Même celui qui chante faux, il s'exerce. Et c'est ainsi qu'il chante. C'est la même chose concernant le parler en langue. On parle en langue. Certains ne font que remuer la langue. La Bible demande d'articuler, de parler. Dans Genèse 9, il est dit qu'il y avait qu'un seul langage. Et les mêmes mots. Les oiseaux ne parlent pas, moi. Ils parlent un langage. Par exemple, Tarzan, il crie et les oiseaux répondent. Il communique. Et puis le loup aussi hurle. Comment croyez-vous que les animaux ont pu être assemblés dans l'arche de Noé? Parce qu'il n'y avait un seul langage. Ça devait être un son commun. C'est ainsi que les oiseaux ont affolié. Et puis les lions aussi sont venus. Seuls les meilleurs ont été sélectionnés. C'est à cause de ce même langage que tous les animaux ont été rassemblés. Et ça a été détruit. Le langage a été détruit. C'est différent des mêmes mots qui sont particuliers aux hommes seulement. Les hommes parlent, et le parler en langue, c'est littéralement parler. Celui qui parle en langue articule, les mots ne sortent pas automatiquement. Certains disent, ils ne font que mettre des sons, et on se demande ce qu'il dit, on lui demande de parler. On leur demande, l'abbé demande d'articuler. Celui qui a reçu la plénitude du Saint-Esprit au départ et qui parle en langue n'arrive plus. Pourquoi? C'est le même principe que l'eau qui bout à 100 degrés Celsius. La Bible dit que c'est par la plénitude du Saint-Esprit qu'on commence à parler en langue. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas parler en langue. Donc, si l'eau refroidie est chauffée de nouveau, elle commence à bouillir et tout le contenu est renversé. Eh bien, quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut se remettre à parler en langue. Et le chrétien qui dit, dans le passé, j'ai parlé en langue et puis j'ai tout perdu. Non, ça sort plus. Ça sort plus. Pourquoi ça sort plus? Parce que, et comment vous pouvez dire ça sort plus puisque vous parlez? Il faut prier par l'esprit parce que l'esprit a des problèmes particuliers et c'est ce que Dieu veut. C'est ton esprit qui profère des mystères. Ne croyez pas qu'un pasteur est toujours propre et et pur de langage ou d'action. Vraiment, quelquefois, je me dis, je suis vraiment un homme. Bien sûr, je me repens à chaque fois. Et Dieu le Père, de peur que mes voisins n'écoutent, je baisse le ton de ma voix. Comment dire des secrets, surtout concernant les péchés qu'on a commis? Bien sûr, Seigneur, donne-moi la puissance, on hurle à voix haute. Mais on peut pas dire à haute voix, on peut pas laver son linge sale à voix haute. Pardonne-moi, parce que moi j'ai, etc. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas permettre de dire à voix haute. Eh bien, comment faire? Que faire de ces secrets? C'est le corps qui pêche et c'est l'esprit qui assume la responsabilité. C'est pourquoi il va en enfer. Donc, il faut laisser l'esprit se repentir à sa guise et dévoiler toutes les situations propres à l'esprit. Il faut laisser l'esprit parler et dire ses secrets à Dieu. C'est pourquoi Paul dit qu'il était reconnaissant de ce qu'il parle en langue plus que tout le monde. Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, il ne faut pas parler aux hommes à l'église, il faut parler à Dieu. Prenons le point maintenant et disons-nous, mon âme prie, mon âme prie, mon âme prie. C'est-à-dire, mon âme prie en esprit, mon âme prie par l'esprit, mon âme prie par l'esprit, mon âme prie par l'esprit. Pourquoi ne pas utiliser la prière que Dieu nous a donnée pour que nous puissions dire nos secrets à Dieu et alléger nos esprits? Vous avez des mystères, des secrets qui polluent vos esprits et qui vous rendent cela pollue vos esprits et sans la sanctification vous pouvez voir le Seigneur. C'est pourquoi en crachant tous les secrets vous pouvez mener une vie spirituelle sainte. Répétons, mon âme prie par l'esprit et sois saint, sois un saint. Mon âme prie par l'esprit et devient sainte. Mon âme prie par l'esprit et devient sainte. Prions tous à haute voix. Priez, veuillez prier par l'esprit en langue. Vous ne savez pas jusqu'à quel point vous devez vous repentir, alors que vos esprits le savent. Ne restez pas, ne gardez pas vos péchés avec vous. Priez en langue avec un cœur de repentance. I don't even know if I can come out of the sick, I don't even know if I can come out of the sick.